Chapitre 24. À l'ombre de Saint-Paul. 10 jours plus tard, je me retrouvai chez moi et dans les bras de ma mère. Je l'avais quittée fort à contre-cœur pour mon voyage sur mer en raison de la délicatesse de sa santé. À mon retour, je fus peiné de reconnaître en elle un changement en mal auquel ses lettres ne m'avaient pas préparé. Je consultai notre ami le docteur Maglou et j'appris qu'il avait également remarqué l'affaiblissement de la santé de ma mère, mais qu'il l'attribuait à une cause facile à écarter, c'est-à-dire au climat de l'Écosse. Ma mère avait passé son enfance et les premiers temps de sa vie sur les côtes sud de l'Angleterre et l'air vif et humide du nord avait été un changement pénible pour une personne de son âge. Dans l'opinion de M. Maglou, le plus sage parti à prendre était de retourner dans le sud avant que l'automne fût plus avancé et de nous arranger pour passer l'hiver à Penzance ou à Torquay. Résolu, comme je l'étais, de me trouver au mystérieux rendez-vous qui m'appelait à Londres à la fin du mois, je ne fis aucune objection au conseil de M. Maglou. Il avait pour moi le grand mérite de parer à la nécessité d'une seconde séparation d'avec ma mère, en supposant qu'elle approuvât l'avis du docteur. Je lui posai la question le jour même, et à ma grande satisfaction, elle se montra non seulement prête, mais avide de partir pour le sud. La saison avait été exceptionnellement humide, même pour l'Écosse, et ma mère m'avoua, en hésitant, qu'elle éprouvait un certain attrait pour l'air doux et le gai soleil de la côte du Devonshire. Nous nous arrangeâmes pour voyager en poste dans notre confortable voiture, en nous arrêtant la nuit dans les auberges de la route. À l'époque antérieure au chemin de fer, ce n'était pas chose facile, pour un malade, que de voyager du Perthshire à Londres, même avec une voiture légère et 4 chevaux. En calculant la rapidité de notre voyage, à partir du jour de notre départ, je trouvais que nous avions juste le temps, mais pas davantage, d'arriver à Londres le dernier jour du mois. Je ne parlerai pas des secrètes inquiétudes qui pesèrent sur mon esprit dans ces circonstances. Heureusement pour moi, sous tous les rapports, les forces de ma mère résistèrent. La facilité et, comme nous disions alors, la rapidité du voyage exercèrent leur effet fortifiant sur ses nerfs. Elle dormit mieux pendant nos haltes de nuit qu'elle ne le faisait chez elle. Après nous être arrêtés 2 fois sur la route, nous arrivâmes à Londres à 3 heures de l'après-midi du dernier jour du mois. Avais-je atteint à temps ma destination ? D'après mon interprétation des mots écrits par l'apparition, j'avais encore quelques heures à ma disposition. La phrase, à la fin du mois, signifiait, comme je la comprenais, à la dernière heure du dernier jour du mois. Si je m'installais à l'ombre de Saint-Paul, ce soir-là, vers 10 heures, j'arriverais au lieu du rendez-vous 2 heures avant que le dernier coup du marteau de l'horloge marquât le commencement du nouveau mois. À 9h30, je laissai ma mère se reposer de son long voyage et je quittai secrètement la maison. J'étais à mon poste avant 10 heures. La nuit était belle et claire et l'ombre immense de la cathédrale marquait distinctement les limites dans lesquelles j'avais été prié d'attendre à l'affût des événements. La grande horloge de Saint-Paul sonna 10 heures et rien n'arriva. L'heure suivante s'écoula très lentement. Je marchais de long en large, tantôt absorbé dans mes pensées, tantôt occupé à épier la diminution graduelle du nombre des piétons qui passaient près de moi à mesure que la nuit s'avançait. La cité, comme on l'appelle, est la partie la plus populeuse de Londres pendant la journée, mais à la nuit, lorsqu'elle cesse d'être le centre du commerce, la population affairée se disperse et les rues vides revêtent l'apparence d'un quartier éloigné et désert de la métropole. À 10h30, puis à 11h15, puis à 11h, le trottoir devint constamment de plus en plus désert. Je pus alors compter les piétons par 2 et par 3, et je pus voir les lieux de rafraîchissement public, à la portée de ma vue, commencer déjà à fermer pour la nuit. Je regardai l'horloge. Elle marquait 11h10. Pouvais-je, à 7h, espérer de rencontrer Madame Van Brandt seule, sur la voie publique ? Plus j'y pensais et moins probable me paraissait la chose. La probabilité la plus raisonnable, c'était que je dusse la rencontrer encore, accompagnée de quelque ami ou peut-être escortée de Van Brandt lui-même. Je me demandais si je pourrais conserver mon sang-froid en me trouvant pour la seconde fois en présence de cet homme. Pendant que mes pensées suivaient ce cours, mon attention fut rappelée à la réalité par une petite voix triste m'adressant tout près de moi une étrange petite question. « S'il vous plaît, monsieur, savez-vous je pourrais trouver une boutique de pharmacien ouverte à 7 heures de la nuit ?» Je me tournai et j'aperçus un petit garçon misérablement vêtu, avec un panier au bras et un morceau de papier à la main. « Toutes les boutiques de pharmaciens sont fermées, dis-je. Si vous désirez un médicament, il faut tirer la sonnette de nuit. »« Je n'ose pas, monsieur, » répliqua le petit étranger. « Je suis si petit que j'ai peur d'être battu si je fais lever le pharmacien en sonnant sans quelqu'un pour parler pour moi. » La petite créature me regardait sur le réverbère avec une appréhension si désespérée d'être battue pour de légères fautes peintes sur son visage qu'il était impossible de résister au désir de lui venir en aide. « Est-ce un cas sérieux de maladie ? » demandai-je. « Je l'ignore, monsieur. » « Avez-vous une ordonnance de médecin ?» Il me tendit son morceau de papier. « J'ai ceci, » dit-il. Je pris le papier et le regardai. C'était la prescription ordinaire d'une potion tonique. Je consultai d'abord la signature du médecin. C'était le nom d'un individu parfaitement obscur dans sa profession. Au-dessous se trouvait écrit le nom du malade pour qui avait été prescrit le médicament. Je tressaillis en le lisant. C'était celui de Madame Brandt. L'idée me vint immédiatement que ce nom était, phonétiquement au moins, l'équivalent anglais de Van Brandt. « Connaissez-vous la dame qui vous a envoyé chercher ce médicament ?» demandai-je. « Oh oui, monsieur, elle loge chez ma mère et elle lui doit un terme. J'ai fait tout ce qu'elle m'a commandé, excepté de prendre la médecine. » J'ai engagé sa bague et j'ai acheté du pain, du beurre et des œufs et j'ai mis de côté la monnaie. Ma mère compte sur la monnaie pour toucher son terme. Ce n'est pas ma faute, monsieur, si je me suis perdue. Je n'ai que 10 ans et toutes les boutiques de pharmaciens sont fermées. » Ici, la conscience de ses malheurs immérités accabla tellement mon petit ami qu'il commença à pleurer. « Ne pleurez pas, mon petit bonhomme, dis-je, je vais vous aider. » « Mais d'abord, apprenez-moi plus long sur la dame. Est-elle seule ?»« Elle a avec elle sa petite fille, monsieur. » Mon cœur battit plus vite. La réponse du petit garçon me rappela cette autre petite fille que ma mère avait vue une fois. « Le mari de la dame est-il avec elle ?» demandai-je ensuite. « Non, monsieur, pas à présent. Il était avec elle, mais il est parti et il n'est pas revenu. » Je lui posai une dernière question décisive. « Son mari est-il anglais ?» demandai-je. « Ma mère dit que c'est un étranger, » répondit le petit garçon. Je me détournai pour cacher mon émotion. L'enfant lui-même aurait pu la remarquer. Portant le nom de Madame Brandt, pauvre, si pauvre qu'elle était forcée d'engager sa bague, abandonnée, seule avec sa petite fille, par un homme qui était un étranger, me trouvais-je donc sur sa trace en ce moment? Cet enfant perdu était-il destiné à devenir l'intermédiaire innocent qui allait me ramener à la femme que j'aimais au moment où elle avait le plus cruel besoin de sympathie et de secours? Plus j'y songeais, et plus la pensée d'accompagner le petit garçon à la maison qu'habitait la locataire de sa mère s'imposa fortement à mon esprit. L'horloge sonna 11h15. Si mes prévisions me trompaient, j'avais encore 3 quarts d'heure à perdre avant la fin du mois. « Où demeurez-vous » demandai-je. Le petit garçon m'indiqua une rue dont j'entendis alors le nom pour la première fois. Lorsque je lui demandai de plus amples détails, tout ce qu'il put me dire, c'est qu'il demeurait près de la rivière, mais dans quelle direction ? Il était trop troublé et trop effrayé pour pouvoir me le dire. Pendant que nous nous efforcions de nous comprendre l'un l'autre, une voiture de place passa lentement à quelque distance. J'appelai le cocher et lui nommai la rue. Il la connaissait parfaitement. Elle se trouvait à un peu plus d'1 mille de l'endroit où nous étions, dans la direction de l'est. Il s'engagea à m'y conduire et à me ramener à Saint-Paul, si c'était nécessaire, en moins de 20 minutes. J'ouvris la portière de la voiture et j'invitai mon petit ami à y monter. Le petit garçon hésita. « Allons-nous chez le pharmacien, s'il vous plaît, monsieur ? » demanda-t-il. « Non, nous allons d'abord chez vous. » Le petit garçon recommença à pleurer. « Ma mère me battra, monsieur, si je reviens sans la médecine. » « Je veillerai à ce que votre mère ne vous batte pas. Je suis médecin moi-même et je désire voir la dame avant de nous procurer la médecine. » L'annonce de ma profession parut inspirer une certaine confiance au petit garçon, mais il se montra encore peu disposé à m'accompagner chez sa mère. « Vous proposez-vous de faire payer quelque chose à la dame ? » demanda-t-il. « L'argent qui me reste de la bague est peu de chose, et ma mère ne voudrait pas le voir distraire de son terme. »« Je ne prendrai pas un denier à la dame, » répondis-je. Le petit garçon sauta immédiatement dans la voiture. « C'est parfait, » dit-il, « pourvu que ma mère ait son argent. » Malheureux pauvre, l'éducation de l'enfant, au point de vue des inquiétudes sordides de la vie, était déjà complète à l'âge de 10 ans. Nous partîmes.